Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans le Book Club de Mademoiselle. Le Book Club de Mademoiselle, c'est l'émission qui questionne la société à travers les livres et en compagnie de celles et ceux, et en particulier ce soir celles, qui les font. Tous les mois, avec Aïda Djoupa qui est à mes côtés, on va inviter des experts et des expertes du monde du livre, des autrices, des auteurs pointus pour questionner ensemble les problématiques contemporaines à travers les livres. Vous nous suivez peut-être en live sur Twitch, on est peut-être aussi en live sur Instagram et TikTok, mais ce n'est pas sûr, parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques juste avant de commencer cette émission. Sachez en tout cas qu'elle sera disponible en replay, en podcast, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et pour cette toute première édition, on a eu envie de se questionner sur un genre extrêmement populaire, mais qui est pourtant boudé par la presse généraliste et spécialisée. Ce genre, c'est la romance. Alors, si vous ne voyez pas de quoi on parle, la romance, il suffit en fait de donner des titres de livres, de séries. Je vais dire Fifty Shades of Grey, enfin Fifty Shades du coup, After, et puis encore plein d'autres noms. Donc on a eu envie de se questionner sur ce genre qui est quand même majoritairement lu par des femmes et qui pourtant est boudé et qui pourtant pose plein de questions d'un point de vue féministe aussi. Pour en parler, on a invité trois intervenantes tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc j'ai à ma droite Camille Emmanuel.
Bonsoir.
Qui est auteure et journaliste. Auteur d'un très grand nombre de nouvelles érotiques, mais aussi d'autres ouvrages, dont un livre qui va être réédité en poche après-demain, qui s'appelle
Ricochet.
Ricochet, voilà, c'est ça. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci.
Et à votre droite, on a Karen Maury, qui est éditrice chez Hugo Roman.
Bonjour.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Et enfin, pour compléter ce panel, on a Magali Biget. Vous êtes enseignante-chercheure à l'Université de Franche-Comté et vous avez notamment écrit beaucoup de choses très intéressantes sur la réception de la romance auprès des lectrices. Voilà. On commence cette émission par un petit questionnaire de Proust qui va nous permettre de vous connaître un petit peu mieux. Voilà. Ça ne dure pas forcément... tout le questionnaire de Proust, on va pas vous poser
des questions. Parce que sinon, ça prendrait tout.
Sinon, voilà. On en a pour toute la soirée. Et cette question, c'est la suivante.
Je vois que les yeux se tournent.
Vas-y.
Si vous étiez une héroïne de fiction, laquelle seriez-vous? Quel type d'héroïne de fiction? Vous avez le droit de donner un nom, vous avez le droit de donner un stéréotype d'héroïne de fiction. Vous avez le droit de dire, je n'en ai aucune idée, je passe mon tour. Voilà, on est libre. Dites-nous tout, peut-être. Camille, Emmanuel, vous avez peut-être une réponse?
Alors, si je devais choisir de vivre dans une fiction, je ne sais pas quel rôle j'aurais, mais j'aimerais bien être une héroïne de Virginie Despentes. Ça serait assez cool.
Très, très cool.
Ça serait bien.
Chouette.
C'est-à-dire que j'aurais un destin tumultueux, je pense, parce que... elle traite pas toujours bien ses personnages, elle vit des choses compliquées, mais c'est toujours des personnages complexes, et contemporains.
Super. On s'imagine ce que serait ce destin.
Et là, je n'ai pas d'idée du tout. Je vais passer mon temps. Okay.
Alors, à brûle-pourpoint comme ça, je me dis que je serais peut-être une héroïne de Jane Austen, féministe avant l'heure, finalement. Peut-être dans Regard du préjugé, ou oui. Pourquoi pas? pourquoi pas.
Donc plutôt dans un environnement brumeux avec une fenêtre pas très loin et
voilà. Et puis surtout ne pas me faire imposer les codes sociétaux qu'on a envie de m'imposer. Enfin, je pense que cette héroïne-là me plaît bien, oui.
Super. Merci pour ces réponses.
Merci. Alors peut-être pour rentrer dans le cœur du sujet, pareil, là, on avait envie de vous questionner. Et le point de départ en fait de cette émission, c'est la romance. Pour vous, qu'est-ce que c'est C'est quoi la romance en fait? Comment est-ce que vous définiriez ce genre? Qui est la plus inspirée parmi vous?
Bah toi, ça fait 20 ans que tu étudies la romance, oui. Donc je pense que tu peux oui. bien répondre.
Enfin, disons que de mon point de vue, parce qu'on aura des points de vue différents, c'est ce qui va faire la richesse aussi, je pense, de cette émission. Pour moi, la romance, c'est un roman, donc un type de roman, dans lequel il y a un couple qui va se former, qui va subir des conflits, qui va avoir des obstacles, et ça va se finir bien. C'est-à-dire, depuis 1978, en fait, le ressort principal de la romance, c'est le happy end. Donc, pour moi, une romance, c'est un couple qui va subir plein de choses et on sait que ça finit bien. Donc, ce qui fait que la tension narrative, aussi haute soit-elle, on peut la supporter parce qu'on connaît déjà la fin. Alors après, on pourra parler de l'avantage ou du désavantage ou de l'intérêt ou du désintérêt qu'on a pour ce type de romance. Mais pour moi, c'est ça, une romance.
Donc on sait, effectivement, quand on prend un livre de romance, on sait qu'on ne va pas être déçu à la fin, en quelque sorte. On sait d'avance où on va.
On peut être déçu. Alors, on peut être déçu par une fin heureuse. Hein. Il y a des fins heureuses qui sont décevantes, qui n'amènent aucun piment, on sait comment ça va finir. Quand c'est amené de manière lisse, on peut être déçu. En revanche, on sait à quoi s'attendre. Peut-être pas la même chose qu'être déçu ou non déçu.
Karen, je vous ai vu lever les sourcils quand j'ai dit on sait à quoi s'attendre. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter?
Non, la romance, c'est vrai que c'est un genre très codifié. Après, dire qu'on sait forcément à quoi s'attendre, je dirais que non. Il y a aussi des romances qui finissent mal, même si c'est moins ce que les lecteurs attendent justement de ce type. Mais je suis plutôt d'accord sur le fait que ça va être vraiment traiter les sentiments amoureux et avoir une approche très psychologique des personnages. En tout cas, c'est ce qu'on attend dans une romance. Savoir comment les sentiments naissent, à quels obstacles ils peuvent faire face, etc., etc. Donc c'est vraiment des auteurs qui vont s'intéresser à la psychologie du personnage. Mmh.
Camille, Emmanuel, vous avez peut-être une définition un petit peu différente de ce genre littéraire. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus?
Bah moi, j'ai une expérience qui est que pendant un an, j'ai écrit des romances érotiques. Donc vraiment, un genre, il y a la romance, mais il y a aussi la romance érotique, donc avec des scènes de sexe assez explicites. C'était un job alimentaire, dans le sens où je continue mon travail de journaliste, mais j'avais ce job où je devais produire un petit peu à la chaîne, des chapitres de romances érotiques pour une maison d'édition qui me commandait, en fait. Il me disait, il te faut un milliardaire, il te faut une jeune fille naïve, 25 ans, qui va découvrir l'amour. Et j'écrivais comme ça mes histoires de milliardaire. En effet, j'avais quelque chose narrativement très simple, une rencontre, un amour impossible aussi, je pense que c'est important, l'obstacle au départ, c'est ça. Pourquoi? Parce que le milliardaire, il a une faille intérieure qui lui empêche de s'engager. J'avais souvent ce guideline-là. La jeune fille, elle, faut qu'elle soit naïve, mais pas complètement bête non plus. Qu'il y a un parcours, en fait, narratif, en fait, pour elle. Il va y avoir plein d'obstacles, et internes et externes. Et en effet, à la fin, ça devait se finir à chaque fois, moi, par ou une demande en mariage ou un mariage. Ponctuer tout ça de scènes de sexe dans un contexte luxueux. Donc voilà, moi j'avais ce taf d'écrire. Quand je dis à la chaîne, c'est vraiment ça. Il y avait un côté quand même très tayloriste en fait de cette production-là. On m'a créé un pseudo, on m'a créé une biographie, ce qui est assez marrant parce que voilà, j'étais censée être une jeune auteure à New York.
La vie rêvée.
Journaliste people. Alors je connais rien au people en plus. J'avais 25 ans, alors que pas du tout, mais bon, j'étais contente, hein, comme rajeunisse. Et puis, mon père était un ancien rocker, et ma mère... parce que voilà, l'auteur aussi devait être aussi glamour que... Voilà. Et ma mère était chanteuse lyrique. Et je disais, alors, pas du tout, ma mère est sage-femme. Elle s'est pas chantée. Et en fait, c'est, ce qui était assez drôle, c'est que c'était la dichotomie avec ma vraie vie, qui est que j'habitais dans un studio à Ménilmontant, au-dessus d'un kebab. Donc, on était loin quand même de la meuf à New York, machin. Sur ses stylés tout toute la journée et qui le soir écrit ses romans érotiques et tout. J'étais genre bah non, pas du tout. Je fais ça parce que je paye mes factures. Donc voilà, je casse un peu le mythe. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite, où je monte un peu, je démonte un petit peu l'envers du décor en fait d'un certain type de production de romans érotiques, où j'explique aux lectrices, non pas que je les prends pour des imbéciles, pas du tout, mais que certains éditeurs et éditrices, oui, pas forcément Hugo qui a une politique d'auteur on va dire classique de maison d'édition, mais il y a des maisons qui ont vu un filon business en se disant oh là, elles en achètent plein, elles en lisent plein, parce que je pense que c'est des lectrices très fidèles, et qui se sont dit genre on va nourrir la bête et on va faire en sorte qu'il y ait plein de textes. Et du coup je m'excuse en fait dans ce pamphlet en disant voilà, moi je te prenais pas pour une conne, mais sache qu'il y a une industrie culturelle qui t'a défini comme une cible marketing et qui te donne à bouffer en fait de la littérature dite érotique. Alors bon, les scènes de sexe, on en reparlera, mais étaient assez normées. Et moi, je trouvais peu excitante. Et j'ai voulu montrer voilà l'envers du décor de cette production.
Ouais, on va revenir plus en détail sur votre expérience et sur vos expériences à chacune. Mais c'est intéressant dès le départ, je trouve, de savoir voilà la manière dont vous concevez cet objet littéraire qui est la romance, parce que comme ça, on saura un petit peu d'où vous vous placez avant de l'aborder. Merci pour toutes ces réponses. On a encore plein de questions à vous poser. C'est que le début, ne vous inquiétez pas.
C'est très intéressant parce que dans tout ce que vous avez dit un petit peu, et Camille-Emmanuel notamment, vous parliez de ce schéma un petit peu de voilà qu'on vous commandait en fait et qu'il fallait appliquer à une histoire quasi toute faite en fonction d'un tableur Excel en fait finalement. Et dans l'un de vos articles, Magali Biget, vous citez un schéma narratif développé par Julia Bettinotti.
Bettinotti, oui, voilà. Canada.
Et dans lequel le scénario se déroule, vous expliquez, en 5 invariants. La rencontre, la confrontation polémique, la séduction, la révélation de l'amour et le mariage. Mm-hmm. Donc ça a l'air très...
C'est très normé. Enfin, c'est un schéma narratif canonique, en fait. Si vous vous rappelez vos cours de collège, vous avez certainement travaillé sur le schéma narratif de toute histoire, où on avait, un événement et puis un cheminement jusqu'à la résolution finale. Mais en fait, c'est un schéma narratif canonique qui est complètement adapté à la romance. Et aujourd'hui encore, même s'il y a des variantes, ce schéma narratif existe dans chaque romance. Hormis peut-être la dark romance, où là, la fin, comme vous disiez à l'instant, la dark romance a une fin qui n'est pas une fin heureuse pour la plupart. Mais c'est pas récent. C'était en 1903, quelqu'un qui s'appelait Gustave Reynier, qui avait... donner de la romance à l'époque, le schéma narratif canonique suivant, une rencontre, et si la fin est heureuse, un obstacle, et si la fin est heureuse, un mariage. 1903. Donc, ça évolue un peu, mais pour le coup, la romance, c'est toujours cette histoire de deux personnes. Donc, on a essayé de faire des trouples, enfin, ça prend pas de la même manière. Il y a eu des essais.
Il y a eu des romances avec des trouples.
Il y a eu des essais. Alors, il y a eu des essais. Bon, il y a eu
ça quelques... s'est vendu 3 exemplaires.
À peu près. C'est comme la romance manga d'un éditeur, c'était il y a une quinzaine d'années, avant l'engouement tel qu'on le connaît aujourd'hui pour le manga. La romance manga importée en France, ils ont fait 4 numéros, je crois. Non, ils sont collecteurs, pour le coup. Mais voilà, c'est un schéma narratif qu'on appelle canonique, parce que c'est une déclinaison à l'infini sur le même au sens l'identique et le plaisir de la répétition. On connaît ces idées de plaisir, enfin quand on regarde des séries en binge watching, enfin le plaisir de la répétition est celui-là, et cette fin heureuse est aussi un des ressorts de ce plaisir de la répétition. Donc sur ce schéma quinaire qui est toujours d'actualité, bien que le livre date de 1988, je crois.
Mais c'est vrai que ce schéma, du coup, quand on l'entend décrit tel que vous le décrivez, c'est vrai qu'on se dit, bon, voilà, ça correspond quand même à un cadre très patriarcal. On va revenir sur...
Ça casse pas trois pattes à un canard et c'est toujours la même chose, ça, un peu ça, voilà.
Mais peut-être d'un point de vue éditeur, éditrice, Karen, nous, on se posait la question, en fait, de comment on produit de la romance aujourd'hui. Est-ce que, voilà, on se base toujours sur ce cadre... ce schéma canonique-là, comment ça fonctionne, en fait ?
Moi, je vous avoue que je n'ai jamais observé une romance à travers ce schéma-là, en tout cas pas à travers est-ce qu'il y a une rencontre, ou voilà, etc. Moi, je l'observe du point de vue plus général de l'histoire, un élément perturbateur, des péripéties, etc., effectivement, mais comme toute histoire, que ce soit une romance ou un polar. Après, vraiment, est-ce qu'on va donner des codes spécifiques à une romance ? On va identifier ce qu'on va appeler des tropes, des catégories. Donc le trope, par exemple, le trope du milliardaire a été très populaire pendant un temps. Effectivement, il y a des concepts qui sont attendus par les lecteurs, qui va permettre de classer les histoires en fonction de qui y parle, etc. Par exemple, je sais pas, récemment, ça va être la campus romance qui va marcher beaucoup. Voilà, ça se passe à l'université, mais c'est un trope. Ça va pas guider complètement l'histoire en elle-même. Et même si une romance peut appartenir à des codes, c'est pas quelque chose qui va être dicté non plus du début à la fin. Et tout comme la fin heureuse, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, parler de mariage à la fin, c'est plus la vision notamment que les auteurs peuvent même avoir. L'happy end, oui, se dire que les deux héros vont vivre des jours heureux ensemble, on préfère se dire ça plutôt qu'envisager un divorce dans 20 ans, c'est quand même plus plaisant, mais se dire qu'il faut qu'il se passe la bague au doigt, c'est presque dépassé aujourd'hui, de se dire justement qu'il faut absolument se marier, un acte officiel, etc. C'est plus varié que ça et il y a plus d'attentes, que ce soit côté lecteur ou côté auteur, pour justement surprendre et se démarquer.
Et plus d'attentes, justement, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un lectorat type, justement, et quelles sont les attentes aujourd'hui de ce lectorat ? Est-ce qu'elles ont évolué aussi ?
Oui, beaucoup. Moi, je pense que la romance, elle a beaucoup évolué, notamment depuis l'émergence de Fifty Shades of Grey, qui avait défini un lectorat type de femmes qui cherchaient à fantasmer à travers des histoires justement presque irréelles. Hein, le milliardaire, on ne croise pas à tous les coins de rue. Il y a vraiment cette notion de fantasme et qui, depuis, s'est énormément élargie, notamment en cherchant, comme on expliquait au début, à travers une perception plus psychologique des personnages. C'est que vraiment, il va y avoir une veine qui va être vraiment autour du rêve et une veine qui va être autour d'essayer de comprendre, de décortiquer. Et donc, à travers celle-là, d'aborder des sujets peut-être plus... clairement plus compliqués, qui peuvent être la violence, les abus, ce genre de choses, et comment psychologiquement un personnage va se dépasser. Ça peut être à travers une relation, notamment également sans chercher aujourd'hui à s'en détacher, et même s'il y a une romance au milieu de tout ça, comment un personnage va se guérir lui-même de ce genre de sujet. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large aujourd'hui que simplement du sexe ou simplement du fantasme, etc., etc.
N'hésitez pas à réagir hein, si vous nous regardez en live, que ce soit sur Twitch, sur Instagram ou sur TikTok. N'hésitez pas à nous dire voilà, si vous avez des questions, si vous posez des questions aussi sur la romance. Si vous nous entendez bien aussi, hein, parce que parfois on a des petits soucis de micro.
Oui, dites-nous si vous ne nous entendez pas, s'il vous plaît.
Voilà. Et dans tout ça, finalement, on voit qu'il y a quand même des caractéristiques qui se dessinent. Bon, il y a quand même une évolution du genre. Mais finalement, pourquoi aujourd'hui, c'est un... puis il y a des succès. Hein, on parlait de Captive, qui est un roman qui a cartonné. Je sais plus combien de millions de
Bon, en gros, on est sur un record de vente ces derniers temps en France. Hein, je crois qu'on était autour de 7 millions. Après, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais des très très gros chiffres pour Captive, qui est un ouvrage de dark romance qui a été clairement boudé par la presse parce que on en a très très peu entendu parler et qui a été écrit par une autrice qui, il me semble, a commencé sur Wattpad ou en tout cas sur les plateformes d'écriture. Accessible à toutes et qui a commencé du coup en tant qu'amatrice et qui se retrouve aujourd'hui un petit peu une superstar du genre. sans avoir d'espace médiatique ou prendre la parole, ce qui est assez étonnant, en tout cas, moi, sans être une spécialiste du genre, ni de la romance, ni de la dark romance, ça m'interroge beaucoup, cette idée de monde dans lequel il y a des ouvrages qui sont archi-populaires, qui représentent un secteur de vente qui est énorme en France, qui mobilise aussi un lectorat qui est très impliqué, qui est attaché à ce qu'il lit et qui se crée et se forme en communauté, notamment sur Internet et sur les plateformes d'écriture. Et qu'autour de ça, on ait un silence presque total de la part du monde de la culture peut-être, du monde des médias en tout cas, qu'on passe presque à côté de ce mouvement qui est aussi, je pense, un mouvement révélateur de plein de choses sur la culture et sur ce qui se passe en ce moment autour de nous en France. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi plein de succès qu'on peut citer de romances qui sont pas seulement des livres, mais je pense à la période des chroniques de Bridgerton sur Netflix pendant le confinement, où on en a énormément parlé, où en fait ça a peu été catégorisé comme de la romance au sens littéraire, alors que c'est tiré d'un livre à la base. Je sais pas ce que les ventes ont donné, d'ailleurs, vous le saurez peut-être mieux que moi. Mais voilà, du coup, on est sur des gros mouvements culturels qui se produisent. Et je suis très contente aujourd'hui qu'on puisse aborder le sujet. On parlait un petit peu des évolutions de ce que c'est que la romance aujourd'hui et des évolutions du lectorat. Peut-être qu'on peut un petit peu revenir sur ce lectorat type, finalement, de la romance. Peut-être qu'on peut avoir un retour, peut-être de vous, Magali Biget, vu que vous avez travaillé sur le sujet.
Alors, je vais peut-être vous décevoir, il n'y a pas de lectorat type.
Nous sommes déçus.
Il n'y a pas de lectorat type, c'est-à-dire que pour certains types de romances, éventuellement, pour After, évidemment, After, c'est pareil, c'était Anatode avait écrit sur Wattpad, elle a tout écrit sur son téléphone, c'est pourquoi ses chapitres étaient très courts et qu'elle était la reine du cliffhanger, donc elle écrivait très vite et ça accrochait. Mais donc pour ce genre de romance, c'est du 15-25, un peu plus ou à peine. Mais il n'y a pas de lectorat type, c'est-à-dire que la lectrice de romance, presque tout genre confondu, sauf des genres vraiment très orientés, comme soit la dark romance, où on vient de le voir, le type de soit 365 jours, soit After. C'est la femme, principalement, mais il y a de plus en plus d'hommes. Donc, en fait, je pense qu'on est à peu près une proportion de 20% d'hommes dans le lectorat de romance, le reste étant 80% environ de femmes, toutes romances confondues. Je parle de romances sérielles, de type sériel. C'est la femme jusqu'à 80 ans et plus, et c'est la jeune fille à partir de 13-14 ans. On le voit d'ailleurs sur les plateformes type Wattpad, les fanfictions de romance font des émules. Enfin, les fanfictions de romance sont lues des milliers, des milliers et des milliers de fois. Vous avez dit le mot pivot et le mot presque magique. Vous avez parlé de communauté. Les lectrices de romance, en fait, font, malgré elles, elles font communauté. Mm-hmm. C'est-à-dire que déjà, elles se battent contre tous les stéréotypes qui sont sur elles par rebond de leur propre pratique. Elles sont déclassées par rebond de leur lecture qui sont la romance. Donc déjà, elles ont cette espèce de carcan. Donc un peu moins depuis Fifty Shades, mais c'est quelque chose qui se porte depuis longtemps, depuis le bovarisme, 1892 quand même. C'était pas hier. Et puis, on se retrouve avec des romances qui sont co-construites. Quand vous avez parlé de plateforme, on parle de communauté, c'est-à-dire que quand on donne un chapitre à lire sur une plateforme, il y a des commentaires, il y a des retours, il y a des orientations, il y a des gens qui expriment leur avis. C'est comme si c'était une création collaborative. Et à partir de là, on se retrouve avec différents profils. Les personnes qui sont sur Internet, les personnes qui lisent des romances sur des plateformes, des personnes qui lisent des romans physiques, des personnes qui ont de l'appétence pour la dark romance ou des personnes qui aiment les séries mais qui sont limitées, les gens qui lisent 3 romans par jour, type Arlequin, les petits 150 pages pour faire du métro. Enfin, il n'y a pas de lectrice type. Bien que les maisons d'édition souhaiteraient un persona, je pense que tu en parleras mieux que moi pour le coup. Je te laisse la parole.
Moi, on m'avait parlé d'une lectrice type pour les types de romans érotiques que je devais écrire. C'était très, très clair. C'est la première fois qu'une maison d'édition me dit... Alors, quand on est dans une maison d'édition, parce que je publie d'autres livres, On sait qu'il y a un lectorat, voilà, selon... j'ai travaillé pour Thierry Magnier qui a sorti des romans young adultes, donc voilà, pour des jeunes. Je savais que je m'adressais plus à des lecteurs, lectrices de voilà, lycéens que, que cinquantenaires. Voilà. Là, moi, c'était beaucoup plus marketé, mon expérience de romance érotique, puisqu'on me disait, donc c'est une fille entre 16 et 25 ans qui va lire beaucoup de trucs, et du coup, toutes mes références devaient être liées à cette lectrice-là. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans une écriture, enfin dans une littérature de, non pas de connaissance, mais de reconnaissance, c'est-à-dire que je devais rien donner comme info que la lectrice ne connaissait pas déjà. Aucune référence culturelle qu'elle pouvait pas connaître.
Ah, quand même.
Donc j'étais dans un truc très mainstream. Si elle écoutait de la musique, ça devait être, je sais pas, bon, Miley Cyrus, à l'époque c'était ça, et pas autre chose. Si je citais une référence, alors, on n'est pas sur la littérature où je citais des références culturelles, mais c'est des gens qui vivent quand même, qui, voilà, qui vivent dans les capitales, New York, Londres ou Paris, donc il y a quand même des choses autour d'elles, mais ça devait être des choses très reconnaissables, où il y avait donc je ne devais pas éveiller du tout la curiosité de mes lectrices.
Extrêmement métabolisée.
Elle devait tout connaître et ne surtout pas devoir faire une recherche Google, ou même se dire genre, oh tiens, un mot ou une référence que je ne connais pas. Et du coup, il y avait ce truc de, attention, il faut qu'elle puisse s'identifier, il faut que, voilà. Donc c'est marrant parce que d'ailleurs, autant le héros était extrêmement décrit physiquement, je savais, voilà, toutes les plaquettes de chocolat qu'il avait, les machins et tout, le fait qu'il n'ait pas un poil sur le torse et qu'il soit bronzé alors qu'il est milliardaire, donc il a quand même temps d'aller se faire bronzer de temps en temps, enfin, bref. Ça, je savais la couleur de ses yeux et tout, son air mystérieux, enfin tout. Mais elle restait toujours un peu vague, puisqu'il y avait ce truc, genre, il faut que la lectrice puisse s'identifier.
La phase identificatoire. Oui,
et en fait, c'est une lecture d'identification. Et moi, j'expliquais, genre, oui, mais à un moment donné, l'identification, elle doit passer par l'écriture et par les émotions. C'est des émotions qui sont universelles. Les personnages, on s'en fout. Moi, je sais qu'un des récits qui m'a le plus bouleversée en film, si on parle de film voilà, populaire, et où je me suis identifiée, c'est Brokeback Mountain. Or, on est assez loin de ce que je suis. Je suis pas un homme, je suis pas gay, je suis pas cow-boy. Et pourtant, c'est un des films qui est le plus bouleversé parce que justement, la façon dont ils vont décrire, c'est une romance aussi d'ailleurs, ils vont décrire cet amour impossible, j'étais complètement dedans. Pareil pour Secret Madison, j'ai pas 70 ans, enfin voilà, sur la route de Madison. Donc en fait, moi j'étais en désaccord avec la maison d'édition en disant ce qui compte, l'identification et là où la littérature est forte, c'est que justement à travers des histoires de vie, des personnages, des milieux, des univers totalement à rebours de ce qu'on peut vivre, il y a quand même c'est cette force de l'écriture de pouvoir nous faire rentrer là-dedans. Là, on me disait, ah non, faut que la girl next door, tu écris une histoire de girl next door, puisque notre lectrice est un peu une girl next door aussi. Donc, pas moche, mais pas une beauté absolue non plus. Enfin, faut qu'elle soit jolie, mais c'est l'homme qui va lui faire rendre compte qu'elle est belle. Pas brillante, mais pas complètement teubée non plus. Enfin, il y avait tout un truc de, voilà, de la fille normale. Comme ça, l'actrice peut se dire, je peux m'identifier à elle, et potentiellement, j'ai le droit de fantasmer sur ce milliardaire, puisque le principe, et juste pour revenir sur l'histoire narrative aussi, la romance érotique, et un truc, moi, que je trouve assez, enfin, très réac et assez problématique, c'est qu'il y a toujours cette fille, enfin, cette héroïne qui se dit, genre, mais pourquoi moi ? Pourquoi, alors que je suis une girl next door, que je suis une stagiaire, ou une étudiante, ou une meuf voilà, lambda, pourquoi cet homme aussi incroyable, aussi riche, aussi beau, aussi puissant et mystérieux, et ce beautiful bastard, qui, voilà, pourquoi est-ce que lui, il va me choisir, quoi ? On est sur un truc, en fait, de princesse, de prince charmant qui va choisir l'élu. Et ça, je trouvais ça problématique, parce que j'étais là, genre, parce qu'il y avait un auto-dénigrement aussi de mon héroïne, qui était là, genre, c'est quand même incroyable qu'ils me choisissent, moi. J'étais là, mais arrête de dire ça. Parce que dans l'écriture, et après j'arrive là-dessus, mais il y a beaucoup de pensées intérieures. Ça, c'est inspiré de 50 nuances de gré. En fait, elle s'auto-parle, et elle s'auto-fouette, et elle se dit genre, oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Je suis vraiment trop bête, j'aurais pas dû lui envoyer ça comme message et tout. Et donc, elle fait beaucoup de pensées intérieures en italique, que je vais écrire comme ça. Et sache pouvoir répéter bouquin après bouquin aux filles que si vous avez la chance de tomber sur un homme puissant, riche et très beau qui tombe amoureux de vous, c'est votre chance de votre vie. Même s'il est salaud, c'est pas grave. Déjà, s'il est salaud, c'est qu'il a une faille intérieure, c'est pas de sa faute, c'est parce que quand il était jeune, blablabla.
Et s'il te ghoste et s'il répond pas à tes messages, c'est pas grave. À un moment donné, au chapitre 3, il va répondre. Mais mais il y a un truc aussi, genre, mais c'est quoi le message, quoi? Non, c'est un red flag, en fait. Moi, quand j'écrivais des trucs et que j'écrivais mon milliardaire qui était dominant et tout, j'ai envie de dire, genre, meuf, barre-toi. C'est un connard, alors qui va se révéler à un moment donné. Mais c'est pas parce qu'il t'offre des fringues de luxe et que tout ça que tu dois... Voilà. Et là, non, ça faisait partie vraiment du schéma de... S'il a cette attitude-là, c'est que c'est attirant, parce qu'on sait bien que les hommes qui sont mystérieux sont attirants. Bon, répéter à l'envie, c'est compliqué.
Et est-ce que, justement, Camille, Emmanuel, est-ce que vous aviez des retours sur comment ces livres que vous écriviez fonctionnaient? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, l'éditeur avait flairé le filon, entre guillemets, et se disait, bon, bah, voilà, on va continuer sur cette lignée-là. Pourquoi essayer d'aller autre part si ça marche comme ça?
Les retours que j'avais, c'était sur les enfin, j'étais pas la seule, donc j'étais une ghostwriter, en fait, de tout ça. Ce qui est assez marrant, c'est que mes personnages ont continué après moi, ce qui est assez bizarre quand même. J'ai vu après sur Amazon.
Comme des fanfictions, en fait, propres.
Avec mon nom,
c'est mon auteur. Ah, avec ton nom, parce que je veux dire, c'est quand même du succès quand tu as des fanfictions de tes œuvres. Ah non, avec ton nom, d'accord.
Oui, mon nom ne m'appartenait pas, c'est pas très grave. mais je voyais, genre, comment ça, il se passe ça, j'ai pas écrit ça. Bah non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit.
D'accord.
Donc il y a vraiment ce truc de ghostwriter, et je sais que Hugo fait pas ça, c'est des vrais auteurs. Moi, j'étais une auteure fantôme. Et en fait, le retour que j'avais, par exemple, c'était sur... Donc, je devais faire une deuxième saga, et donc j'étais en train d'écrire mes fiches personnages pour dire, il va se passer ça, c'est ça, toujours un milliardaire. Et l'éditrice m'avait dit, on a fait un sondage sur les réseaux, sur les fantasmes, voilà, de nos lectrices, et on a mis une photo d'un homme en costume hyper chic et une photo d'un homme tatoué, et en fait, c'est 50-50. Donc, est-ce qu'il pourrait être tatoué, avoir un costume, de luxe et tout? Je genre, d'accord.
Il cache des tatouages sous son costume.
Et donc, il y avait comme ça, je sais qu'il faisait des enquêtes marketing pour savoir ce qui faisait mouiller les lectrices, parce que c'est vraiment ça. Et je devais répondre à ces injonctions-là. Après, j'avais aussi des retours sur... Fallait pas que tout soit répétitif par rapport aux différentes romances. Et une fois, j'ai eu un rendez-vous, mais qui m'a tellement fait rire, a posteriori, avec l'éditrice, où elle me dit, genre, à un moment donné, dans les étapes de danger, l'héroïne devait être en danger, en fait. Et elle me dit, genre, bon, en ce moment, on a beaucoup trop d'héroïnes qui se retrouvent enfermées dans des coffres de voiture. Donc, il faut trouver autre chose, quoi. Et il se trouve que moi, j'avais imaginé un truc comme ça. J'étais genre, merde, je vais tout changer. Ouais, elle se faisait enlever dans une camionnette. Mais, non, pas un coffre. Donc, c'est passé. Mais j'avais des retours sur ok, on fait des choses qui doivent se ressembler, mais faut pas que une romance et tout. Et ce qui est assez drôle, on en parlait avant l'émission, c'est que j'avais des commentaires de lectrices sur Amazon notamment. Et en fait, j'ai lu une histoire de, enfin, une lectrice qui disait, oh, il y en a un peu marre ces histoires de milliardaires. Et j'ai envie de dire, bah ouais, meuf, moi aussi j'en ai marre de les écrire. Mais quand j'essayais de faire autre chose, et quand je disais à l'éditrice, peut-être qu'on peut changer ça, peut-être qu'on peut être un peu moins stéréotypé là-dessus et tout. C'était genre, non, elles veulent ça, il faut leur donner ça. C'est genre, oui, mais à un moment donné, c'est prendre aussi l'éditrice pour des imbéciles. Peut-être qu'on peut varier aussi les narrations.
Alors, on nous demande dans le chat de représenter les intervenantes. Bonjour d'abord, bonsoir à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. On est dans le book club de Mademoiselle et on parle de romance ce soir, romance et féminisme, un amour impossible, on se questionne. Et on est avec Camille Emmanuel qui est auteure et journaliste. Karen, j'ai mangé votre nom de famille, Maury, pour ne pas mal le dire, qui est éditrice chez Hugo Roman, et Magali Biget, qui est enseignante-chercheure à l'Université de Franche-Comté, autrice de nombreux articles sur la réception de la romance auprès des lectrices. Dans cette émission, on a des petites chroniques aussi, dans lesquelles on a envie de mettre en avant d'autres livres, pas forcément en lien avec la thématique de l'émission. Et dans la chronique qui arrive, Aïda, tu vas nous parler d'un livre qui est passé sous les radars et qui pourtant mériterait qu'on en parle et qu'on le lise.
Tout à fait. Je vais faire tu un vas. Petit cliffhanger autour de cet ouvrage qui est passé sous les radars, que vous voyez s'afficher à l'écran, mais suspense une seconde de plus, pour simplement revenir sur un commentaire qu'on a eu dans le chat de Portrait of Dorian. Bonsoir Portrait of Dorian et merci de m'avoir reprise sur une info que j'ai eue à moitié sur Captive. On parlait des ventes de Captive, j'avais pas les chiffres sous les yeux. Dorian nous rappelle, Captive était à 7 millions de lectures sur Wattpad avant contrat d'édition. On est aujourd'hui à plus de 100 000 exemplaires vendus en France, ce qui fait un nombre de lectures énorme et un nombre de ventes très très élevé. Voilà pour ce petit cliffhanger autour du livre dont je vais parler, qui est passé sous les radars. Et je vais reprendre ma chronique dans une seconde, car ma foi, nous sommes en live et il me faut le temps d'y revenir.
Une nuit, donc c'est ce livre qui est très beau. Je ne sais pas si vous connaissiez toutes les trois. Écoute, Aïda,
eh bien, je vais vous en parler,
savoir ce qu'il en est.
En rapprochant un petit peu le micro, car je vais parler longtemps d'un coup. Donc, c'est l'heure de Sous les radars, la chronique du Book Club qui vous parle d'un livre coup de cœur qui n'a pas eu assez de lumière, du moins selon nous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais d'après les chiffres des états généraux de la BD en 2020, sur les 1500 auteurs et autrices qui déclarent faire de la bande dessinée, seuls 27% sont des femmes. C'est relativement peu. Si vous êtes aussi doué en maths que moi, sachez que j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 400 autrices de bande dessinée sur 1500 personnes qui déclarent en faire. Donc, quand on a entendu parler d'un ouvrage qui avait 4 autrices, c'est-à-dire 1% des femmes autrices de bande dessinée en France, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette la main dessus. Ces 4 autrices, c'est Kenza Aloui, Saena Delacroix-Sadiguian, Inès Weil-Rochon, qui sont autrices, et on a une illustratrice qui s'appelle Odélia Camoun, pour être exacte. Toutes les 4, elles signent une bande dessinée ou un roman graphique, c'est selon, qui est publié aux éditions First et qui a été publié en septembre 2022. Alors, Une nuit, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une rencontre fortuite entre 3 personnages qui se rencontrent un soir tragique. C'est pas précisé, mais on reconnaît clairement à l'histoire que c'est un jour qui ressemble au soir des attentats du 13 novembre 2015 en France. Et dans la panique, ces 3 personnages qui ne se connaissent pas se retrouvent cachés ensemble, en fait. Elles se retrouvent chez le grand-père de l'une d'entre elles. Donc c'est un huis clos. C'est un huis clos dans cet appartement où ces 3 inconnus se mettent à se révéler tout doucement les unes aux autres. Elles ont chacune des bagages familiaux différents, elles ont des vécus notamment d'immigration différents. Elles ont des rapports à leur identité différents et elles en parlent en s'interrogeant les unes les autres. Dans ce livre, on aborde la religion, on aborde la nationalité, on aborde la manière dont on nous regarde et on nous perçoit en France quand on est une femme racisée. On aborde aussi la manière dont on porte son histoire familiale et ses traumas, que ce soit quand on a des parents qui ont fui une dictature en Iran ou quand on a des grands-parents juifs qui ont vécu la montée du nazisme en Europe. Et c'est une bande dessinée et un ouvrage qui frappe très très juste. On y aborde plein de sujets qui sont difficilement soulevés et rarement avec autant de pertinence. S'il frappe aussi juste, c'est aussi parce que c'est le miroir de conversation que les autrices de l'ouvrage ont déjà eu entre elles, c'est le reflet de leur vécu. Elles ont mis beaucoup d'elles dans ces 3 personnages qui deviennent à la fois très attachants et en même temps porteurs de choses qui sont très lourdes à porter. Et en plus, cette histoire, en plus d'être très belle à lire, elle est aussi très belle à regarder. On y trouve de la calligraphie notamment, faite par l'une des autrices. On a un trait graphique qui change en fonction des histoires, en fonction de ce qu'on essaye de raconter, des scénettes qui se jouent. Et on a des mises en abîme avec des personnages qui regardent comment ces 3 personnages se parlent et réagissent les uns entre eux. C'est très beau, c'est très puissant et en même temps, c'est feel good à la fin parce qu'en vrai, on aime bien quand ça se finit bien, comme dans la romance. C'est cru, c'est vraiment un beau livre à lire et ça s'appelle Une nuit des éditions First et il coûte 22,95€. Vous pouvez le trouver dans toutes les très bonnes librairies, globalement. Voilà ce que je vous recommande.
Merci Aïda.
Merci à vous de m'avoir écoutée.
Ça vous inspire ?
Oui, beaucoup.
Ouais.
Parfait.
Il y a un lien en plus avec votre dernier livre qui est donc réédité dans 2 jours, Ricochet. Puisque vous parlez, peut-être que vous pouvez nous dire un mot d'ailleurs, Camille-Emmanuel, de ce livre.
Très rapidement, parce qu'on est hors romance. C'est un récit et une enquête journalistique. Sur les proches de victimes d'attentats. Et les proches de victimes en général, c'est-à-dire qu'est-ce que... C'est ma situation personnelle, puisque je suis mariée à un rescapé de Charlie Hebdo. Et j'ai voulu enquêter sur qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire métaphysiquement même, d'être pas la victime directe, mais d'être dans le premier cercle. D'être la personne qui accompagne la victime, en quoi ça bouleverse une vie, en quoi ça bouleverse une psychologie. Et du coup, forcément, voilà, ces sujets m'intéressent sur les parcours de résilience, en fait.
Merci, merci beaucoup.
Je reprends ton micro.
Non, mais on met comme ça. Et effectivement, donc pour ceux qui nous rejoignent, on se répète beaucoup quand on est sur Twitch parce qu'il y a des gens qui arrivent au fil du direct et même sur Instagram et même sur TikTok. On est là ce soir pour parler romance et féminisme. N'hésitez pas à poser vos questions à nos trois invités. Et pour reprendre le fil de notre discussion, c'est vrai que vous parliez de red flag. Camille et Emmanuel tout à l'heure et c'est vrai que moi je me pose la question et on en avait discuté avec Aïda aussi quand on est autrice de romance bon, vous avez une expérience qui est particulière et je pense que Karen vous pourrez nous parler aussi de l'expérience d'autrice qui travaille avec Hugo mais voilà, quand on a des convictions personnelles féministes comment on se plie à ce travail-là de d'être confronté à voilà des situations où on se dit ah non gros red flag mais en fait bon ben je enfin voilà j'y vais quand même.
Bah on vit en dissonance cognitive sans arrêt. On fait le grand écart, beaucoup de souplesse. Bah c'est vrai qu'au moment où j'écrivais ça, alors ça payait mes factures et ça remplissait mon frigo quand même cette écriture là. Ce qui n'est pas le cas des piges pour des médias féministes. Donc, mais disons qu'il y avait... c'était une période où en plus, je faisais beaucoup de reportages sur les contre-cultures sexuelles aussi. Donc, ça soit les sexualités BDSM, polyamoureuses, libertines, peu importe. Mais j'allais voir du côté du hors-norme des sexualités, ce que ça nous disait, nous, de nos propres normes et comment ça pouvait interroger, en fait, la norme sexuelle, la norme corporelle... Et du coup, ce qui était assez drôle, c'est que ce que j'écrivais pour le coup, les scènes de sexe que j'écrivais pour les romans érotiques étaient ultra normées. Et la petite anecdote marrante, c'est que quand j'ai terminé cette expérience, je me suis dit que c'était tellement normé, j'écrivais tellement de façon, bon, sujet, verbe, complément, très très simple, etc. Mais même dans mon imaginaire et dans mes fantasmes que je mettais en scène, ça devait être très classique quand on était sur des choses... un homme, une femme, dans un cadre de luxe à chaque fois, mais sinon ça restait... J'ai fait tous les cadres de luxe du monde. Hein. J'ai fait...
Quelle chance.
Les rooftops, l'avion privé, le machin, l'île privée aussi, enfin tous les endroits les plus... Voilà. Mes recherches Google, c'était quand même... J'avais plein de pubs après pour des trucs de luxe. Là, genre, merci. Et c'était voilà, très très normé. Et en fait, l'expérience marrante, c'est que je me suis dit, oh mon Dieu, ça se trouve, ça a perverti mon cerveau, mais dans le sens genre... Je suis plus capable d'écrire des choses que je vais trouver moins excitantes. Et juste après, j'avais écrit une nouvelle pornographique pour les éditions de la Musardine, où j'avais raconté l'histoire d'une prostituée, une travailleuse du sexe, qui couchait avec un prostitué, un travailleur du sexe, dans une chambre d'hôtel, qui n'était pas de luxe.
Wow, grand écart, encore une fois.
Ça faisait tellement du bien, c'est dans un truc 2 étoiles. Et avec tout un truc voilà, donc de pute, en fait, en gros, quoi, qui baisait ensemble, et je cassais complètement les codes, tout ce que j'avais pas pu mettre, et il y avait un truc très cathartique, genre, je peux encore écrire des trucs qui vont dans la transgression, qui vont dans un imaginaire érotique qui est pas forcément le mien, mais voilà, et qui va interroger, justement, le hors-norme. Et je m'étais rassurée en disant, je peux encore écrire du porno voilà, qui m'excite. Et puis, je ne suis pas forcément formatée pour maintenant écrire que l'érotique mignon et glamour. Quoi. Mmh. Mais je n'ai pas répondu à la question. Si, j'ai répondu à la question sur...
comment on fait. Effectivement. Magali Biget, vous qui avez bien étudié ce genre, en quoi on peut dire que... Voilà, selon les critères établis dont on parlait tout à l'heure, ça correspond à un système patriarcal. Ça reproduit en tout cas ce schéma.
Alors, ça reproduit extrêmement longtemps ce schéma. Ça le reproduit toujours, mais pas systématiquement. Et on constate, heureusement, depuis 7-8 ans, quand même une diversité dans la romance. On a des couples homosexuels, on n'a pas forcément des couples où l'un prend le dessus sur l'autre. On a des conflits, bien sûr, parce que pour qu'il y ait un happy end, il faut qu'il y ait un conflit au départ, ou au moins au milieu, puisque il y aurait rien à raconter. On sait bien que les histoires sont faites de péripéties. Mais fort heureusement, on échappe de plus en plus à ça. Mais il y a encore une appétence et il y a toujours un public pour des romances, oui, qui ont encore ces traits du patriarcat. Mais j'aimerais quand même souligner quelque chose de très important qu'on oublie souvent. Ce n'est pas parce qu'on lit de la romance avec ces codes, que ce soit un milliardaire, une héroïne plus jeune ou inexpérimentée ou d'autres, hein. Ce n'est pas parce qu'on les lit, qu'on les cherche dans le quotidien ou qu'on les aime dans le quotidien. Il faut vraiment savoir faire la distinction, parce que j'entends encore trop souvent aujourd'hui des lectrices de romances, fort heureusement moins qu'il y a 10 ou 15 ans, mais qui se retrouvent déclassées par rebond de leur pratique littéraire. Tu lis de la romance, t'es une bécasse. En gros, c'est ça. Enfin, pour l'anecdote, il y a une vingtaine d'années, je voulais interagir avec un forum de discussion sur les romances qui s'appelait lesromantiques.com. Pendant 2 ans, j'ai dû montrer patte blanche parce qu'elles imaginaient que j'étais, selon leur dire, une énième sociologue qui était là pour les montrer comme des bécasses. Et pendant 2 ans, je suis allée régulièrement sur le forum, j'ai discuté avec elle de plein d'autres choses. Il y avait aussi des soucis d'appart, des choses comme ça. Donc quand je pouvais donner des renseignements, je faisais. Puis au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que non, je n'étais pas là pour les montrer comme des bécasses. Je m'intéressais vraiment à leur pratique de lecture sans les juger. Je ne me suis jamais posé scientifiquement la question de la littérarité de la romance. 50 nuances degrés, bon, à mon titre, enfin, personnellement, j'ai un avis. Scientifiquement, je n'en ai pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réception, ce qu'en font les lectrices. Le contenu, qui est un grand L ou un petit L, pour moi, c'est de la littérature. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit... Enfin, je voulais le dire parce que je trouve ça important et je trouve ça grave qu'on en arrive encore aujourd'hui à déclasser des gens par rebond de leur pratique, parce que dans les lectrices de romance, il y a tout le monde. Ça va de la jeune fille en passant par l'avocate, l'enseignante-chercheur, la sage-femme, l'infirmière, l'ouvrière, enfin, tout le monde. Je mets tout au féminin parce qu'on a quand même plus de 80% de lectrices. Mais il y a des gens qui, encore sous la torture, ne diraient pas qu'elles lisent la romance alors qu'elles adorent ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu gênant d'être encore à ce point prisonnière d'un carcan, d'un carcan sociétal qu'on nous colle en fait.
Vas-y, je t'en prie.
C'est hyper intéressant de mentionner justement la différence entre ce qu'on lit, ce qu'on souhaite au quotidien et surtout la manière dont on est jugé et perçu. Pour ces lectrices-là, on en a parlé un petit peu en début d'émission, la romance c'est un genre qui subit beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. Karen Maury, je voulais revenir un petit peu vers vous. Il y a une première question que j'avais à vous poser sur la manière dont vous éditez de la romance chez Hugo Roman, la manière dont vous trouvez vos manuscrits et dont vous échangez avec les autrices peut-être. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Oui, on va éditer des romances de la littérature américaine. Donc là, ça va être de la traduction. Et on a développé depuis plusieurs années tout un pan de romances françaises. Et donc là, va y avoir le classique soumission de manuscrits à la maison d'édition. Et en parallèle, on a développé une plateforme d'écriture qui propose des concours d'écriture où les éditeurs sont présents pour dénicher de nouveaux talents. Et à travers ces concours, on va repérer des textes et faire émerger des nouvelles... des nouvelles veines, on va dire, aller un peu chercher ce qui plaît en ce moment dans les tropes, etc., aux lecteurs. Et ce qui est intéressant avec cette plateforme, donc qui s'appelle Fixia, c'est que les lecteurs vont créer déjà une communauté. Parce que comme Magali le disait tout à l'heure, il y a vraiment un soutien des lecteurs envers les auteurs, envers cet univers qui les passionne, et notamment qui s'est énormément développé sur Internet. On l'a vu avec Wattpad, avec les fanfictions. Voilà, les plus grandes romances ont pu émerger sur ces plateformes-là. Et donc, on a cherché aussi à trouver ces communautés et à ce que les auteurs puissent interagir directement avec les lecteurs. Et donc, du coup, aujourd'hui, Fixia pour Hugo et pour Hugo New Romance est un dénicheur de talent et a trouvé une grande partie des auteurs, des autrices aujourd'hui françaises de la maison d'édition.
Et vous, en tant qu'éditrice, donc qui travaillez au quotidien avec avec ces autrices, avec ce public aussi, avec les lectrices notamment de romances, est-ce que vous percevez ces stéréotypes et ces préjugés dont Magali Biget parlait à l'instant, justement cette idée que la romance ce serait un sous-genre littéraire, ou en tout cas que ce serait quelque chose qui fait de ces lectrices des bécasses, pour reprendre vos termes, je suis désolée du mot qui est pas très
Bah c'est des chercheurs les ont dépeintes comme ça. Enfin, Michel Cooky en 1988 avait eu des mots très durs envers les lectrices de romance. Malheureusement, je n'ai jamais eu droit de réponse parce que elle est décédée quelques années après. Mais je n'ai parlé avec un collègue qui avait travaillé sur la relation amoureuse dans les romans harlequins, un sociologue pour le coup, et qui me disait que en fait elle avait des comptes à régler. Et que c'est assez facile hein, de mettre tout le monde dans le même panier quand on n'aime pas quelque chose. Mais c'est pas si facile que ça.
Oui, moi je suis tout à fait... Enfin, on le voit au quotidien, on le voit à travers la presse, on le voit même à travers... alors pour décrire un peu la chaîne du livre, après l'éditeur, il n'y a pas directement le lecteur, il y a plusieurs intermédiaires. Et même pour faire passer, pour transmettre le genre, leur expliquer à ces intermédiaires-là, donc qui peuvent être le libraire, qui peuvent être avant le diffuseur, il peut y avoir tout un processus de déconstruire ces a priori, d'expliquer que oui, il y a un lectorat de romance, que non, il ne faut pas le sous-estimer ou le décrédibiliser, voilà, le traité de bégasse, etc. Et comme on en discutait avec Camille Emmanuel, il y a même des maisons d'édition, alors qui n'est pas Hugo Roman, mais il y a effectivement des maisons d'édition qui considèrent eux-mêmes leur lectorat comme des bécasses, on va reprendre le mot qu'elle utilisait depuis le début. Et il y a une volonté de déconstruire, et il y a aussi une volonté de dire que ni les lectrices, ni les autrices qui écrivent de la romance ne sont pas féministes, même si elles peuvent reprendre des codes qui peuvent être considérés comme patriarcaux. Il faut mettre, justement, comme ce qu'on disait, ce qui est du fantasme sur du fantasme, ce qui n'est pas réel pour ce qui n'est pas réel. Et ça ne veut pas dire que dans leur quotidien, elles vont accepter certaines choses ou elles considèrent que certaines choses sont bonnes. Et aujourd'hui, la romance n'a pas de volonté justement à être patriarcale. Sans pour autant que les romans soient engagés, normalement, une autrice ne cherche pas volontairement à transmettre des codes qui ne sont pas ce qu'elle pense. Donc dans la romance, on va retrouver des héroïnes qui sont indépendantes, qui n'ont pas forcément besoin d'un homme, etc., etc. Même s'il y a eu, et il y a toujours, parce que les histoires, ça reste des histoires, après tout, lisons ce qu'on veut, c'est pas pour autant que les autrices ne sont pas féministes derrière.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Camille Emmanuel, je vous ai vu réagir à ce, à ce que disait Karen.
En fait, la question, c'est pas tant... les récits de ces livres-là, mais c'est la répétition en fait de ces schémas-là. Et je pense qu'en fait on est quand même sur un schéma, moi que je considère oui assez patriarcal, où il y a quand même ce truc d'obsession autour de l'amour et du couple, c'est-à-dire que la révélation, le parcours de la femme, ça va passer par la rencontre avec un homme. Même s'il y a eu des tentatives de faire de la romance LGBT, ça s'est vendu
très peu.
Comme les histoires de troupes, hein, très très peu. Donc on est aussi sur la répétition d'un même schéma où c'est une femme qui rencontre un homme, voilà. Et avec ce truc où on va se sauver grâce à la rencontre amoureuse. Et même l'épanouissement sexuel va passer par la rencontre amoureuse. Bah, pas forcément. Enfin, on a quand même aujourd'hui pas mal de... ou d'expériences personnelles ou d'études qui montrent que la question du désir et la question de l'amour ne sont pas forcément corrélées
Et je pense qu'on a toutes vécu des histoires érotiques extrêmement fortes qui n'étaient pas amoureuses et des histoires amoureuses merveilleuses et qui érotiquement étaient nazes. Enfin voilà, c'est c'est pas toujours corrélé. Donc, mais là, on répète que voilà, c'est à travers la rencontre unique, voilà, parce que ce qui me faisait marrer aussi dans ces histoires-là, c'est que ça s'arrête quand tout se termine bien. Mm-hmm. Mais ça parle souvent de la rencontre. Mais après, comment ils vont vivre leur histoire, comment ils vont maintenir le désir et tout dans le couple, ça, on s'en fout, quoi. Alors que c'est ça qui est intéressant, c'est ça que moi, j'ai envie de lire dans un roman. Si on parle d'amour, j'ai envie de dire comment ils font pour avoir envie l'un de l'autre, après avoir eu deux enfants.
Il y a eu pas mal de sagas. Il y a eu des sagas.
Mais ça fait moins rêver. Là-dessus. Je sais que ça fait moins rêver. Ouais. Et je comprends cette histoire de faire rêver, de machin. Ouais. Moi aussi, je consomme des séries où, en fait, j'ai juste besoin de me détendre et tout. Mais la question, c'est que si on répète tout le temps ces schémas-là, à un moment donné, quand même, ça a une influence sur ma pensée. Quand on parle de l'influence du porno sur les fantasmes, bon bah pour moi, c'est la même chose avec la romance érotique. Si on le lit, si le seul accès à un récit érotique, c'est la romance érotique, ça va avoir aussi un impact. Mm-hmm. Et alors, c'est moins violent que le porno, parce qu'il n'y a pas de double pénétration, il n'y a pas de... Voilà. On a le droit de dire ça sur
Alors, on va découvrir très bien.
C'est pas très sympa en général.
Après 20h, on va dire qu'on va en crête.
Non, mais voilà, on est sur quelque chose de moins frontal. Et voilà. Mais on est sur une répartition d'un même schéma sexuel qui a quand même une influence sur les fantasmes. Comme le fait que, on le sait, on l'a vu, si on a été baigné dans des histoires de Disney toute nos vies, et c'est le cas d'ailleurs, enfin, moi je sais que je suis en 80, donc j'ai vraiment baigné dans Disney, et puis dans les princesses Disney, quoi. Elles n'étaient pas warriors, les princesses, en plus à ce moment-là. Ça, il y a quand même ce truc du prince charmant, de l'homme qui va sauver, de l'amour qui est forcément le but à atteindre dans la vie, le couple, etc. Et voilà, c'est un environnement hollywoodien. On sait qu'il y a un impact sur nos représentations du monde. Je ne dis pas qu'après, on va penser que le monde, c'est ça. Mm-hmm. Évidemment qu'elles ne sont pas bêtes. Elles savent très bien qu'elles n'ont pas de milliardaires à côté d'elles.
Pour la plupart, en tout cas.
D'ailleurs, j'avais fait une étude sur... En disant comment... Enfin, on sait que ce n'est pas possible. Et j'avais regardé le nombre de milliardaires qu'il y avait dans le monde et qui étaient les milliardaires. Excellent. Bon, ils n'étaient pas... Ils n'avaient pas de temps. Ils n'étaient pas célibataires. Ils n'étaient pas beaux comme ça.
Ils n'étaient pas dans le profil.
Ils étaient à 80% asiatiques et ils avaient plus de 60 ans. Je disais, genre, on n'est pas du tout dans le schéma de... Hein. Ouais. Et puis, en plus, le milliardaire en question, je pense qu'il irait plutôt chercher ou la mannequin ou la comédienne, pas forcément la stagiaire du coin aussi. Enfin, il y avait tout un truc genre, quelle est la probabilité pour que le milliardaire... Voilà.
On peut lire ça quelque part ?
Toute une statistique sur... je vais faire une référence à totalement horrible en parlant de féminisme, mais c'est comme le sketch de la chauve-souris là, de Bigarré. Donc, quelle est la probabilité pour... c'est un truc de probabilité où en fait il n'y a aucune chance vraiment dans la vie de rencontrer ce milliardaire. Et je pense que les lectrices ne sont pas bêtes, elles ne sont pas dupes. Mais en tout cas, le fait de répéter que vraiment un homme riche, c'est vraiment intéressant érotiquement et amoureusement, ça infuse, je pense, à un moment donné.
Et alors justement, côté maison d'édition, je me tourne vers autant Karen que Magali, est-ce qu'il y a des volontés de renouveler le genre, ou en tout cas d'imaginer d'autres schémas narratifs qui sortent, alors peut-être pas les troupes, j'en sais rien, mais voilà, des choses différentes, peut-être un petit peu plus féministes, peut-être, voilà, autre chose.
Alors, il ne faut pas oublier que 50 nuances degrés, c'est un phénomène qui a démarré il y a 10 ans, un peu moins, mais je n'ai plus les dates en tête.
La fanfiction a un peu plus de 10 ans, oui.
C'est ça. Et donc, 50 nuances degrés, ce n'est pas Hugo New Romance, mais on a eu Beautiful Bastard, qui était aussi dans un bureau, c'était un peu dans la même veine, et que depuis, le genre a énormément évolué et c'est surtout énormément diversifié. Avec le lectorat qui s'est agrandi, il y a d'autres choses. Et donc oui, il y a cette partie romance érotique, avec le milliardaire qui fait toujours aujourd'hui fantasmer. 365 jours, ça date de l'année dernière, et c'est aussi, alors je suis pas sûre qu'il est un milliard, mais je pense qu'il est au moins millionnaire.
Il doit être pas loin de milliardaire.
Voilà, il approche le milliard et
voilà,
un récit Mathieu en plus qui aborde des thématiques aussi un peu plus sombres avec un enlèvement, etc. Donc il y a vraiment une côté fantasme. Je pense pas que les lectrices qui ont lu 365 jours rêvent de se faire enlever. En tout cas, je l'espère pas. Mais en parallèle, il y a vraiment pas que ça, et c'est pas non plus ce genre-là qui incarne toute la romance et toutes les lectrices de romance. Parce que typiquement, on parle de captif, qui est un phénomène en dark romance en ce moment. Nous, le phénomène qui explose chez Hugo New Romance, c'est un roman qui s'appelle Jamais plus, de Colleen Hoover, et c'est un roman où alors il n'y a pas de milliardaire. Le thème principal, c'est les violences conjugales. Donc on n'est plus sur du fantasme, on est vraiment sur de la réflexion psychologique et sur comment l'héroïne, sans l'aide d'un homme, va évoluer dans sa vision du couple, dans sa vision elle-même de la mort. Donc ça traite toujours de la mort. Colleen Hoover, c'est une autrice américaine qui est une référence dans le genre de la romance, mais qui va aller plus loin et qui va construire complètement un autre schéma narratif. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que son livre se vend, son livre vraiment fonctionne. Et donc vraiment, il y a un lectorat pour ça, et c'est le lectorat de romance. C'est une grosse partie du lectorat d'Hugo New Romance qui a aussi probablement lu 360 jours, qui s'est tourné vers ce livre. Et donc, il y a vraiment deux pans de la romance complètement différents. Il y a des lecteurs et des lectrices qui peuvent lire les deux. Il y en a qui peuvent aller sur un seul de ces genres, plus psychologique ou plus fantasmé. Mais en tout cas, ça ne se définit pas uniquement par la romance érotique, même si je ne vous contredirai pas, parce que je reconnais forcément des codes dans ce que vous dites. Mais ce n'est pas toute la romance aujourd'hui. Ça s'est vraiment diversifié. Et notamment, alors moi, je suis plus, comme on a pu l'expliquer, plus experte sur la romance française, parce que je suis au contact des auteurs français, qui ne se tournent principalement pas vers cette romance fantasmée, mais plus vers cette romance psychologique. Par exemple, aujourd'hui, Morgane Moncomble, qui est devenue une référence aussi dans le genre de la romance française, c'est une autrice qui s'intéresse à la psychologie des personnages, qui va aborder des thèmes comme les abus sexuels dans ses livres, comme... j'ai plus de thématiques grandes en tête, mais qui va aussi vraiment chercher à comprendre comment les personnages en viennent à tomber amoureux, ce qu'on disait au tout début, et pas uniquement à appliquer des codes. Alors elle le fait, et il y en a toujours parce que ça s'inscrit dans un genre particulier. Donc par exemple, son roman L'As de cœur va avoir beaucoup de sensualité autour des deux héros, donc il y a quand même des codes de la romance qui restent, mais il va y avoir tout un apport psychologique qui est important aujourd'hui de souligner, et une volonté des auteurs de le faire. Donc oui, il y a eu, et le point de départ, on ne peut pas le nier, ça reste quand même quelque chose de très codifié, et un épanouissement de la sexualité qui a ensuite été repris par d'autres maisons d'édition pour satisfaire, on va dire, des codes très précis, mais ça s'est énormément élargi en 10 ans, et c'est l'avantage de ce genre littéraire qui évolue très très vite, notamment parce que les communautés sont en interaction constante, et donc du coup vraiment aujourd'hui on peut dire que par exemple c'est l'émergence de la dark romance, notamment avec Captive qui avait un peu commencé à émerger, c'est quelque chose qui a émergé en tout cas aussi violemment très récemment. La dark romance existe depuis très longtemps, mais vraiment ça a des pics comme ça d'intérêt qui varient, et on est toujours à l'affût de qu'est-ce que demain va plaire. Ça change tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à travers,
Je me permets de rebondir sur... Karine, vous parlez de s'intéresser beaucoup à la psychologie des personnages, voilà, des scènes de sexe qui ne sont pas forcément récurrentes, ou en tout cas, pas autant qu'on l'imagine. Et on en discutait avec Aïda tout à l'heure, on se posait la question... De certains livres qui sont sortis récemment, qui ne sont pas qualifiés de romance et qui pourtant on pourrait en avoir les codes. Et on citait notamment Sally Rooney, qui est présentée comme voilà, une révélation littéraire outre-manche, qui est extrêmement lue. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Sally Rooney, mais voilà, c'est aussi beaucoup l'analyse de la psychologie des personnages, des thématiques très contemporaines, comme on parlait des violences faites aux femmes. Dans les romans de Sally Rooney, on peut parler d'endométriose, on peut parler de voilà, thématiques très contemporaines, avec des scènes de sexe aussi, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne qualifie pas les ouvrages de Sally Rooney de romance?
Parce que ce n'est pas de la romance. Et c'est un roman.
Parce qu'il n'y a pas de milliardaire.
Parce que ce n'est pas codifié, et qu'il y a une complexité. Et c'est ça qui est super chez Sally Rooney. Il y a une complexité des personnages, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas binaires. Il n'y a pas le héros, l'héroïne, etc. On ne sait pas... Au début, on peut s'attacher. On peut considérer, notamment dans Normal People, que le mec, c'est un connard.
Absolument pas. Mais pas parce qu'il a une faille intérieure et que machin ou ça. Non, c'est juste qu'il y a une complexité de personnage. C'est pas rythmé par les fameux trucs d'obstacles, de machin, de ça se termine bien. Je sais même pas si ça se termine bien, d'ailleurs, de mal propos, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y a une plume où, en fait, elle raconte une histoire que personne n'a jamais lue. Ou alors pas comme ça. Parce qu'en fait, la romance, ça vient de l'histoire d'amour. Et en fait, Shakespeare aussi, c'est de la romance. c'est une histoire d'amour.
Tout peut être
ça a toujours existé.
Bien sûr.
Après,
bien
ce qui, pour moi, fait littérature, c'est quand une plume apporte un autre regard, une autre histoire, etc. Mmh. Donc, c'est l'ironie. Pour moi, c'est pas de la romance, puisqu'elle rentre pas dans les codes d'un genre précis. Voilà. Elle va inventer sa propre littérature. C'est un roman. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça reste... Et c'est un best-seller, donc on peut aujourd'hui écrire des histoires d'amour contemporaines, où il y a du sexe aussi, les scènes de sexe sont absolument fabuleuses, et la série aussi est bien tournée par rapport à ça, sans forcément rentrer dans un genre précis. Ce que je veux dire, c'est que c'est heureusement aussi que sans... d'être dans le code de la romance ou de la romance érotique, il y ait des objets littéraires qui trouvent le grand public. Et ça démonte un petit peu l'idée de bah non, les lectrices, elles veulent ça, elles veulent absolument. Bah non, les lectrices, elles veulent aussi pouvoir être surprises par des plumes différentes.
Les lectrices veulent être surprises, mais je me permets de rebondir parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, enfin qui est fondamental de ce que tu viens de dire. Pour moi, ce n'est pas de la romance. Pour toi, ce n'est pas de la romance. Simplement, enfin, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai fait une enquête de 4 ans et demi sur la réception de 50 nuances de Grey. Avec un collègue, on a interrogé pendant 4 ans et demi des personnes qui avaient accepté de nous répondre après avoir lu le premier tome, deuxième tome, troisième tome, sorti au cinéma. 4 ans et demi, c'est quand même pas rien. Et à un moment, plutôt intéressée par l'idée du genre littéraire ou du non-genre ou de l'infra-littérature, enfin... J'aurais demandé, si vous deviez donner un genre à 50 nuances de Grey, qu'est-ce que ce serait? Parce qu'on a appelé ça mom porn, enfin bon, voilà. Et ça allait de Martine découvre son corps à roman à l'eau de rose par érotique soft et pornographique hard. C'est-à-dire que la réception est complètement dépendante, et ça il faut que tout le monde l'entende, de notre vécu, de nos appétences et de notre vécu littéraire. Les personnes, enfin, on sait, enfin, selon les chiffres Kantar Media, que la littérature érotique, dire, c'est, si on veut dire avec un grand L de la littérature dont on parlait tout à l'heure, les beaux textes érotiques qui ne sont pas dans la sérialité de la romance, c'est plutôt des citadins, plutôt des hommes, et c'est 3%, grand maximum. Et là, pour le coup, des gens qualifiaient donc ce roman soit de Martine découvre son corps, soit de érotique hard, soit à l'eau de rose, et à un moment, on m'a même parlé de thriller. Donc, c'est en fonction de tout ce qu'on a lu jusque-là qui a créé nos attentes, qui a créé nos attendus et qui a créé nos références. Donc, au Canada, ils ont compris où classer Fifty Shades, parce que j'ai eu la chance d'aller à Montréal l'année après sa sortie, la sortie du premier. Ils nous ont dit, nous, on met ça à côté du théâtre parce qu'on ne sait pas où le mettre. Donc, ils avaient collé ça à côté du théâtre parce que les gens savaient parfaitement où le trouver parce qu'ils ne savaient pas où le mettre. Et cette réception-là, donc pour toi, ce n'est pas de la romance, mais je suis certaine que pour certaines personnes, c'est de la romance, en fonction de ce qu'elles ont lu.
Parce que ce n'est pas marketé comme ça.
Voilà, ce n'est pas marketé comme ça. Et ça c'est la différence fondamentale. Là, tu as dit le truc le plus important. C'est ce que l'éditeur a décidé de mettre. Quand Arlequin décide dans les années 90 de faire de l'hybridation, on a eu du polar romance, on a eu la fameuse série Sixième Sens qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectrices où c'était de la science-fiction, c'était du surnaturel. C'était pas de la science-fiction, c'était du surnaturel réel et de la romance. Mais sur certains romans, le surnaturel prenait tellement de place que la romance était la portion congrue. Donc, mais il y a des gens qui disaient, mais non, mais ça, c'est plus de la romance. Et pour d'autres, c'était de la romance. Donc, il y a aussi cette histoire de réception. Et là, si on parle marketing, en revanche... Là, c'est vraiment, enfin, c'est du packaging. C'est ce que je décide d'imposer comme genre et ce que je décide pour le lectorat de lui donner comme nom. En revanche, le lectorat, lui, si on lui demande de définir un genre, il le fera par rapport à son vécu, à son expérience personnelle. Donc, je crois qu'on est sur deux niveaux différents. Mais je crois que c'était important. Enfin, c'est bien que tu l'aies dit comme ça, parce que je trouve que c'est important de remettre les choses aussi à l'église au milieu du village, comme on le dit parfois dans les campagnes. L'idée, c'est deux choses différentes qui ont des points qui ont des points de convergence, qui ont des points d'achoppement, et c'est aussi vraiment dépendant de son expérience.
On nous demande dans le chat, c'est quoi la dark romance? Alors on peut peut-être préciser.
Karen, je pense que tu seras la mieux placée pour parler.
Alors la dark romance, ça va être une romance qui va aller un peu chercher, alors pas forcément à choquer les lecteurs, mais à aborder des sujets qui sont choquants. Donc par exemple, le plus fréquent qui va être abordé, ça va être par exemple le syndrome de Stockholm. Donc là, souvent l'homme... Quoique j'ai entendu maintenant qu'ils essayaient de faire avec des schémas contraires, hein, où la femme va kidnapper, mais c'est...
Un homme a kidnappé une femme dans une romance.
voilà, où par exemple, ça va être la romance où la femme tombe amoureuse de son kidnappeur. Ça va être le schéma, on va dire, le plus souvent repris dans ce genre-là. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle la dark romance, c'est que vraiment, tu n'accepterais pas ça dans la vraie vie. Mais à aucun moment, et même quand tu lis le roman, tu te demandes comment l'héroïne accepte ça. Donc souvent, ça va être justifié par des problèmes psychologiques, souvent des deux côtés. Hein, pour en arriver là, il y a beaucoup de problèmes des deux côtés. Mais, alors je vais dire entre guillemets, quand c'est bien fait, ça peut être très intéressant parce que vraiment, ça va aller chercher la psychologie... vraiment développé. Alors, chez Hugo, d'une romance, c'est pas le genre qu'on propose en majorité, mais on en a une de dark romance qui s'appelle Plonge avec moi et qui aborde, donc c'est la rencontre d'une fille qui découvre que l'homme qui l'intéresse est un tueur en série. Et donc, vraiment, donc voilà, c'est choquant, c'est dark, on n'accepterait pas ça, mais c'est une romance qui, d'un point de vue psychologique, est très intéressant. Alors, moi, je ne l'ai pas lu en entier. Ce que j'en ai lu, voilà, c'était dur à lire. J'ai lu une partie du roman, c'est dur à lire. Donc, c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais d'un point de vue psychologique, il y a une recherche de l'auteur de comprendre, d'essayer d'imaginer comment l'homme ou la femme peut en arriver à trouver l'amour dans un milieu vraiment compliqué. Alors là, on va dire que je vante un peu la dark romance de chez Hugo. Plus largement, c'est pas toujours fait de cette manière-là. Plus largement, ça peut vraiment aller sur du fantasme autour de choses, on va dire, un petit peu choquantes. Enfin, moi, il y a vraiment des choses, même en tant qu'éditrice, que je voudrais pas voir. Mais il y a un lectorat pour ça. Il y a une partie du lectorat de romance qui s'intéresse à ça. Alors, c'est pas forcément de la psychologie, peut-être... d'y avoir du fantasme. Alors encore une fois, moi j'ai des sujets de dark romance qui me viennent en tête où j'ai du mal à imaginer le fantasme autour de ça, donc je me dis que c'est plus, on va dire, des questions psychologiques autour, mais en tout cas ça existe.
Est-ce qu'on peut être plus explicite pour comprendre de quoi exactement
par fantasme alors, de viol
voilà, donc il y a le viol, mais plus largement, par exemple, je sais qu'il y a des maisons de dark romance qui ont émergé ces derniers temps, qui promettent d'aborder des sujets comme... la pédophilie, par exemple. Alors, j'espère et j'imagine que elle est presque majeure, parce que sinon, vraiment, je non, me puis, demande.
C'est des sujets qui méritent d'être traités s'ils le sont avec des énormes...
Voilà, exactement.
Avec un bagage critique qui est énorme autour. Et après, ça, pour le coup, je pense que c'est un débat qui... enfin, un débat. En tout cas, une question qui est beaucoup plus large aussi autour de ce qu'on... n'édite comment on l'édite et ce qu'on publie, ouais, c'est clairement autre chose qui est très éloigné de ce qu'on traite.
Après,
là,
c'est des choix éditoriaux. Ça dépend aussi de la limite que met l'éditeur autour du fantasme et également autour de ce que réclament les lecteurs. Est-ce que l'éditeur est supposé censurer ou non ce que réclament les lecteurs? Après tout, s'il y a un public pour ça, il est possible de lui proposer. Alors, je ne dis pas du tout que c'est la politique d'Hugo, mais aussi, ça explique pourquoi d'autres maisons d'édition émergent. Ce qu'on entend, et c'était exactement le cas, j'imagine, avec la maison d'édition pour laquelle tu as travaillé, il y a un public qui demande, on leur donne, peu importe la pensée derrière. Ouais. La maison d'édition pour laquelle tu travaillais considérait son public et des idiots, c'est pas pour autant qu'ils leur donnaient pas ce qu'ils voulaient, malgré tout. Donc j'imagine que c'est...
Vous voyez réagir
à... Oui, non, ça me fait penser, cette histoire de dark romance. 365, c'est une dark romance, en fait.
Parce a priori, c'est une...
Elle se fait enlever du jour au lendemain par un mec qui l'enlève, quoi, parce qu'il la kiffe. Et en fait, elle est vraiment, genre, captive. Et en fait, j'ai vu que la série, j'ai pas lu le bouquin.
Mais à un moment donné, très rapidement, enfin je vais spoiler, hein, mais tant pis. Donc elle est là genre, oh non, je veux pas être enlevée. Oh, il est quand même pas mal sous la douche. Mais non, je veux pas être enlevée. Enfin voilà, on est quand même sur ces schémas-là, quoi, sur culture absolue du viol et de machin et de la violence. Et là où elle va switcher en se disant, peut-être qu'en fait je tombe amoureuse de lui, c'est quand il l'emmène faire du shopping dans une boutique de luxe. Mais je vous jure, si on avait voulu faire une caricature de ce style-là, on n'aurait pas imaginé ça. Non, c'est pas possible. Et vraiment, il l'emmène genre Pretty Woman faire du shopping. Et là, genre, en fait, il est charmant. Ouais. Alors que le mec, il enchaînait. Donc, on est sur un truc de la femme de base. On peut lui faire n'importe quoi. À partir du moment où on lui offre un sac Chanel, elle va dire oui. Et c'est quand même... Voilà.
Et en fait, la romance,
ça me fait penser à un documentaire, mais qui n'est pas la fiction, mais à l'arnaqueur de Tinder, où on voit des meufs intelligentes, qui ont des métiers importants, etc., qui vont tomber sur un mec qui a l'air méga riche, jet privé, enfin, c'est un personnage de romance érotique millionnaire, et elle tombe dans le panneau alors qu'il y a tous les red flags. Là, genre, en fait, le mec, c'est un gros menteur, pas du tout. Il abuse, il humilie et tout. Et on se dit, mais comment elles ont pu tomber là-dedans? Elles sont pas bêtes pourtant. Mais parce qu'on baigne aussi dans un environnement où on nous fait comprendre que ces signes de pouvoir sont des signes de séduction sur lesquels on doit être attiré. Et puis que si le mec, parce qu'elles ont plein de red flags, on se dit qu'à un moment donné, il a trois vies en fait. Et elles les voient pas, ces trucs-là. Parce qu'un homme mystérieux, c'est un homme séduisant. Non. Run, cours. On a l'impression qu'il a trois meufs, c'est qu'il a trois meufs. C'est ton ambition, quoi. Mais parce que dans l'environnement aussi culturel, et c'est pas que la vie romain, c'est aussi les films hollywoodiens, c'est que plein de choses, c'est les séries où on nous fait comprendre que ouais, c'est quand même c'est un signe aussi de pouvoir et de séduction. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est interroger. Moi, quand j'interroge ce type de production, c'est pas pour cibler un genre littéraire particulier, c'est interroger quelles sont nos représentations, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'est l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'est une sexualité idéale, un amour idéal et un homme idéal.
Comment on uniformise en fait la réalité ça une mise en abîme de la réalité.
Oui, et la publicité le fait aussi. C'est un environnement culturel global qui va répéter sans arrêt les mêmes messages, où à un moment donné, on en vient à l'arnaqueur de Tinder où des meufs brillantes même se font complètement arnaquer par un type avec un jet privé. Et elles sont pas bêtes, c'est juste qu'elles ont baigné aussi là-dedans.
On a un commentaire qui est intéressant à relever dans le chat qui vient de Miss Frozine. Bonsoir Miss Frozine, d'ailleurs bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui sont sur le chat, qui nous écoutent et qui interagissent avec nous. Donc Miss Frozine nous dit « Bonsoir, en lisant / écrivant des romances, on ne se complaît pas dans le male gaze, mais on reconnaît au moins la présence des voix féminines, et ce, malgré le schéma canonique et les tropes et les topoï. C'est déjà ça. » C'est vrai que c'est un truc qu'on a abordé un petit peu rapidement, mais on est quand même aussi sur un genre qui est pas seulement lu majoritairement par des femmes, il est aussi écrit et produit majoritairement par des femmes. Est-ce que ça suffit à pouvoir se dire qu'on va sortir du male gaze et ne rien faire de patriarcal parce que c'est des femmes qui le produisent? Je suis pas sûre, l'impression que c'est pas ce qu'on en attend. Mais voilà, en tout cas, c'était effectivement important de le soulever. Merci, Miss Frozine. Je sais pas si ça vous évoque des choses particulières, cette remarque et cette réflexion.
Est-ce qu'il y a des hommes qui écrivent de la romance, d'ailleurs?
Oui. Alors, il y en a, mais souvent sous pseudo. Enfin, je sais pas chez vous, mais souvent, les hommes qui ont eu écrit... Alors bon, pour l'instant, moi, ça fait quelques années que je fais des recherches sur plein d'autres choses. Donc la romance, c'est mon fil rouge. Voilà, je travaille sur d'autres choses depuis 4-5 ans qui m'ont un peu éloignée de ces recherches-là. Donc de manière très contemporaine, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des hommes qui écrivaient sous pseudo-féminin parce que ça paye plutôt bien, la romance sérielle. Donc, mais il fallait montrer patte blanche. Enfin, quand on parlait d'une littérature féminine, écrite par des femmes pour des femmes, là, bon, c'est ce qui fait aussi une quintuple stigmatisation, finalement, de cette littérature. Il y a des hommes. Alors, je ne sais pas si vous avez des hommes qui écrivent sous leur propre nom.
Oui,
bien. Je suis ravie d'entendre que...
Alors, donc moi, j'ai un peu la perception de plateforme d'écriture et de publication. Sur Fixia, donc la plateforme d'écriture, pendant les concours, il y a des hommes.
qui proposent des textes. Donc oui, il y a des hommes qui écrivent et il y a également des hommes qui sont publiés en romance. Peu comparé à ce qui est proposé, mais il y en a. Il y en a clairement.
Est-ce que voilà, c'est des schémas différents peut-être ou pas?
Non, pour le coup, pas forcément. Pas forcément. C'est à mon avis plus une perception où ils vont aller vers un genre qu'ils ont lu et qu'ils vont au début reproduire. Donc c'est pas forcément une volonté d'apporter une vision différente, c'est de se plaire dans un genre, et ça permet aussi de montrer que la romance n'est pas forcément un genre féminin et qui correspond à un seul sexe. C'est-à-dire que en fait, un homme qui lit de la romance peut avoir tout à fait la même compréhension de l'histoire et tout à fait le même fantasme qu'une femme qui lit de la romance. Notamment, par exemple, alors oui, il y a beaucoup de romances qui peuvent être narrées du point de vue féminin, mais il y a aussi énormément de romances proposées qui sont des deux points de vue, pour avoir, on va dire, vraiment la psychologie du couple dans son ensemble. Il y a également, en tout cas chez Hugo New Romance, il y a des romances LGBT qui sont proposées. Du coup, voilà, ça peut être deux héros masculins. Et donc, du coup, c'est pas forcément seulement pour s'adresser à la femme. C'est vraiment pour s'adresser à tout le lectorat. Alors oui, on va pas se mentir, la majorité du lectorat est féminin, mais c'est pas restreint aux femmes.
Ça bouge.
Ça bouge et ça évolue.
Moi, j'ai jamais rencontré dans ma vie de mec qui lisait, qui avait lu la romance érotique. Jamais. Ou alors par intérêt journalistique et encore, mais jamais, jamais, jamais. Autant des...
Parce qu'ils le disent pas. Enfin, en fait, la plupart du temps, enfin de ce que j'ai vu depuis une vingtaine d'années. Hein, la plupart du temps, en fait, les lecteurs de romances lisent les romances qui traînent chez eux. Oui, ils deviennent lecteurs par rebond, pour le coup. Ouais, ouais. Ils sont pas acheteurs, pas forcément acheteurs. Et là, par exemple, pour Fifty Shades, j'avais quelques exemples. On a eu très peu d'hommes qui ont répondu. Et c'était incroyable, parce que ça a déclenché comme on ouvre son cœur et on raconte tout. Hein. Donc moi, j'ai eu des lecteurs qui m'ont carrément dit, moi, je lis Fifty Shades of Grey parce que j'adore, parce que je me mets à la place d'Anastasia. Et voilà. Donc,
chercher une domina.
Ben oui, mais complètement. Non, mais c'était complètement. Enfin voilà, oui, c'était ça. Enfin, lui, il souhaitait une relation BDSM, enfin SM. Mm. Oui, bon, ça dommage aussi de clairement. Et lui, c'était Anastasia qui le faisait kiffer, pour le coup. Donc on a ces choses-là, mais la majorité des hommes qui annoncent lire de la romance, c'est la romance qui est chez eux, qui lisent, voilà, qui se sont mis à lire et qu'ils ont apprécié lire. Et bah pareil, dans le même système de réception, ça fait plaisir, ça déconnecte, ça se lit vite, on n'ouvre pas le dictionnaire toutes les trois pages, et puis voilà, ça emporte, et puis on sait à peu près où on va, et puis on peut l'arrêter en cours de route. C'est un peu ça, la réception. Elle est un peu plus distanciée, la réception masculine, en ce sens que c'est un loisir avec un investissement peut-être... De ce que j'ai entendu, après il y aura des contre-exemples forcément, un investissement personnel dans l'acte de lecture peut être un peu moins profond que la lectrice qui aime la romance et qui la lit vraiment dans l'acte de lecture plaisir, pour le coup.
Alors moi, je précise juste qu'aujourd'hui, effectivement, on dit lectrice parce que ça reste une grosse majorité, mais alors pour avoir rencontré des lecteurs, de notre maison d'édition, ils ne sont pas différents des lectrices. Enfin, pour le coup, c'est un profil, effectivement, mais il y a des lecteurs, il y a même des blogueurs ou des tiktokers aujourd'hui qui sont spécialisés dans la romance et qui ne sont pas, qui ont la vingtaine, qui ne lisent pas parce que c'est leur petite amie qui lit ou qui ne lisent pas parce qu'ils ont trouvé un livre, qui aiment la romance, qui sont des acheteurs de romances, des fans d'auteurs de romances, et c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un ovni, c'est pas étrange, ils ont tout autant le droit, et la romance au final s'adresse tout autant à eux, aux hommes qu'aux femmes, parce que analyser la psychologie ou analyser les sentiments, c'est justement, on va dire,
courage, il est là.
C'est un a priori de se dire que c'est typiquement féminin de vouloir analyser les sentiments. Après tout, tout le monde a le droit de se poser des questions autour de ça. Et donc, ça ne doit pas être si étonnant que ça de se dire qu'un homme peut aimer la romance autour de ça, ou peut vouloir fantasmer d'ailleurs autour d'un milliardaire ou une milliardaire. Après tout, c'est pas forcément... voilà, on va arrêter là.
J'avais une question. J'ai perdu le fil parce qu'on a digressé à peu près trois fois depuis que j'ai fait ça. On a une question du chat, mais que j'arrive pas bien à lire. Tu la comprends, toi, Marie-Stéphane?
Alors, je pense que c'est un rapport avec les scènes de sexe.
on aura peut-être une interprétation.
Si la personne qui a posé la question veut bien la préciser.
Oui, c'est ça. Ele Yuzumi, je suis vraiment désolée. En fait, l'usage des petites étoiles dans ta question fait que je suis pas sûre qu'on arrive à la comprendre. Pour nous aussi,
c'est peut-être une censure de la plateforme.
Je pense, ouais. Selon vous, ces petites étoiles, oui. les étoiles finissant par S,
c'est une censure.
Deux romances qui ont su désamorcer et s'opposer au code schéma qu'impose le patriarcat. Donc j'imagine que ça fait référence aux scènes de sexe, mais bon.
En tout cas, c'est une question.
Il faut mettre une périphrase. Il faut éviter les termes précis pour faire des périphrases.
Voilà, on n'a pas le droit de dire certains mots sur.
De plus en plus de plateformes, en fait, c'est automatiquement transformé en étoile. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est aussi. Sur Twitch, de ce que j'en sais, c'est aussi pour lutter contre les campagnes de dénigrement et les campagnes de harcèlement sexuel des gameuses, où elles se font traiter de tous les noms. Oui, voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mis en place. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'étoiles dans cette question et qu'on n'a pas la précision.
C'est vrai que Twitch, c'est un peu particulier. En fait, on n'a pas le droit de montrer, par exemple, certaines choses au risque d'être coupées directement.
D'accord.
Je dis ça, peut-être que Twitch ne va pas être content et va nous couper.
on a une explication de la part d'Ele Yuzumi et de la part des Ocs. Ele Yuzumi voulait dire auteur.autrice en écriture inclusive. Donc, selon vous, quels sont ou qui sont, je suppose, là où les auteurs et autrices de romances qui ont su désamorcer et s'opposer au code / schéma qu'impose le patriarcat. Et ensuite, on a un modérateur, Ezoc, qui nous précise que l'utilisation du mot en écriture inclusive a été compris comme un lien hypertexte par le chat.
D'accord.
D'où les petites étoiles.
Très bien. Merci Ezoc pour l'explication. Mais du coup, voilà, est-ce que, les auteurs, on en a un petit peu parlé, en
oui,
fait.
Oui, c'est ça. Déjà. Si c'est des noms à citer, donc effectivement, moi, c'est les noms que j'ai cités au début, Colleen Hoover en référence américaine, ou Morgane Moncombe, par exemple, en référence française. Évidemment, il y en a d'autres, là, je cite, on va dire, les best-sellers, comme tu disais. Mais effectivement, c'est des auteurs qui ont apporté des romans qui sont dans les codes de la romance, mais qui mettent en avant d'autres sujets derrière pour amener les personnages à évoluer psychologiquement. Et donc, c'est un sujet difficile. Aujourd'hui, une partie du lectorat de romance les recherche. Les recherche, alors pas du tout sur la partie fantasme dont on parlait tout à l'heure, mais sur la partie, exploration, découverte. Et puis, c'est une manière aussi pour certaines lectrices ou certains lecteurs de faire face, on va dire, à eux-mêmes, leur propre vécu, et de s'échapper, on va dire, à travers ces livres-là, de se dire... Bah, que tout est possible et qu'il y a un happy end à la fin, puisque c'est le principe de la romance quand même, c'est de dire que même en ayant vécu le pire à la fin, ça peut aller mieux. En tout cas, j'espère.
Et il y a la collection L'Ardeur, attention jeu de mots, il n'y a pas de H, mais les éditions Thierry Magnier ont une collection qui s'appelle L'Ardeur, donc a sorti des romans young adultes, où il y a des scènes explicites de sexe, donc voilà, on n'est pas forcément dans la pure romance, mais quoi qu'il y ait, enfin il y a des histoires d'amour, en tout cas après classées ou pas dans la romance, mais en tout cas l'idée c'est de donner la liberté aux auteurs, de dire voilà quand on parle souvent aux ados ou aux jeunes adultes, on va adresser pas mal de sujets compliqués, la mort, je sais pas moi, la drogue, plein de choses. Et par contre, le sexe est souvent un angle mort où on se dit genre... Alors que c'est quand même un truc assez central, notamment dans ce début où on découvre en fait son propre parcours sexuel. Et donc, ils ont proposé à plusieurs auteurs. Et ça continue d'ailleurs. Il y a des choses pas forcément hétéros. Enfin, il y a beaucoup de plumes différentes dans la L'Ardeur qui proposent des choses intéressantes aussi à ce niveau-là.
Vous avez écrit le nom pour L'Ardeur, oui. Camille Emmanuel.
C'est l'occasion de parler.
Je disais pas ça pour donner l'impression que vous prêchiez pour votre paroisse, évidemment. C'est l'occasion de parler justement de ce que vous avez écrit. C'est aussi une expérience d'écriture, notamment d'écriture autour de la sexualité pour vous. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu le titre au moins de l'ouvrage?
Oui, ça s'appelle Le goût du baiser. Et c'est en deux mots, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans. Qui au début de sa vie amoureuse et sexuelle, enfin elle n'est pas vierge parce que je voulais surtout pas d'une héroïne vierge, mais qui du jour au lendemain, après un accident de vélo, perd le goût et l'odorat. Or, ce sont deux sens très importants dans la vie, mais aussi
dans la sensualité, dans la découverte de l'autre. Et elle va transformer ce handicap, parce qu'elle ne sent plus rien, ne se sent plus elle-même, elle a peur même de sa propre odeur. Elle va transformer ce problème physique qu'elle a en force, puisqu'elle va devoir parler et dire les choses dans la sexualité. Et gagner pas mal d'années, en fait, je pense, sur les questions de plaisir et de désir.
Super, on a très envie de le lire, du coup, maintenant, c'est bon teasing. Et justement, on va terminer cette émission avec la pile à lire. C'est un petit moment pendant lequel nos invités, vous, nous conseillez un livre que vous avez dans votre pile à lire, ou que vous avez lu, que vous avez hâte de lire. Pas forcément en lien avec la thématique de l'émission, mais vraiment, voilà, un livre qui vous fait envie ou qui vous a fait vibrer pour je ne sais quelle raison. Qui veut commencer ? Magali,
alors, j'ai lu récemment, confié par une copine, « Mémé Goes to Hollywood » de Nadine Monfils. C'est un ovni, j'allais dire, c'est un ovni littéraire pour le coup, parce que Mémé Goes to Hollywood, en fait, c'est l'histoire d'une grand-mère complètement acariâtre, qui déteste les gens et qui veut partir à Hollywood pour retrouver Jean-Claude Van Damme, avec lequel elle voudrait se marier. Okay. Alors, des tribulations absolument dingues, c'est caustique, c'est bien écrit, c'est plein d'humour, c'est gore par moment, parce qu'elle est un peu barrée quand même, cette elle me dit, mais voilà, c'est petit, ça se lit très bien, et c'est un bon gros moment littéraire de détente et d'écriture, j'allais dire, qui change un peu des codes pour le coup.
Très bien. Mémé Goes to Hollywood de Nadine Monfils, du coup, qui est donc dans la pile à lire, qui n'est plus dans votre pile à lire, puisque vous l'avez lu.
Pour le coup, oui. J'allais le terminer, en fait, comme on avait très brièvement parlé dans le train. Le train, c'est parfait.
Mais voilà. Karen, vous avez une pile à lire
composée de manuscrits.
Voilà, composée de manuscrits, c'est votre métier. Donc, on comprendrait s'il n'y en avait pas un en particulier.
Surtout que j'ai envie de vous dire, les récents que j'ai lus ne sont pas encore sortis, donc...
Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour nous teaser aussi.
Voilà. Karen Mori est en avance sur nous. Non, mais du coup, je vais prêcher pour ma paroisse, on va dire, mais notamment récemment, j'ai énormément lu de romances de Noël. On n'en a pas parlé, mais c'est un genre dans la romance qui est très, très populaire en ce moment, notamment à la période de Noël, sans surprise. Voilà, on voit énormément, par exemple, de films Netflix émerger autour de ça. Et ben, dans la littérature, c'est pareil. Chez Hugo Roman, on s'y est mis il y a 3-4 ans et c'est de plus en plus adoré par les lecteurs. Et notamment dans les romances de Noël qu'on a proposées, il y en a une qui s'appelle « Les azalées fleurissent en hiver » et qui se passe en Martinique. Je suis désolée à l'auteur si jamais je me trompe. Sur une jolie île paradisiaque. Donc je l'ai lu il y a quelques temps, mais c'était vraiment la volonté de l'auteur d'aller à l'encontre, on va dire, des codes. Et donc là, des codes de la romance de Noël, puisque du coup, c'est une romance de Noël sous le soleil qui aborde des thématiques fortes, comme on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je vous dirai pas exactement lesquelles, etc. Mais du coup, c'est pour moi ce roman-là qui incarne, en tout cas, le plus cette volonté d'aller à l'encontre des codes. Donc c'est de la romance, hein, on retrouve tout ce qui plaît aux lecteurs de romance dedans, mais voilà, c'est fait de manière très subtile et très touchante de la part de l'auteur. Donc c'est vraiment le livre, en plus que j'ai lu, bon, pas récemment, mais c'est dans ce que j'ai lu récemment, puisque j'ai lu beaucoup de romances de Noël ces derniers
temps. À Noël, voilà. Temps. Voilà. Très bien, alors est-ce mystérieux. Que vous pouvez nous redonner le titre ?
Les azalées fleurissent en hiver, les de azalées. Dahlia Bleck.
Très bien, si jamais ça intéresse des gens qui nous regardent. Camille Emmanuel, c'est quoi votre livre ?
Alors, je vais peut-être écorcher le nom de l'auteur, je vous l'avais dit, c'est Nina Allan, c'est ça ?
Alors, normalement ça va s'afficher sur l'écran.
J'ai peur de me tromper, faut pas écorcher le nom d'auteur.
Voilà, je me suis trompée.
C'est ça.
Le créateur de poupées.
Le créateur de poupées, ouais, de Nina Allan, que j'ai lu je l'ai terminé pendant les vacances. Ce qui est assez marrant, c'est que j'étais en vacances au Canada et j'avais fini ma pile à lire, donc désespoir. Et mon mec va en librairie, il me ramène ce livre. Je me dis, ouais, ça a l'air super, je pense que ça peut vraiment te plaire. C'est une histoire de nain qui collectionne des poupées. Là, pardon. Excuse-moi, mais non merci. Je n'ai rien contre les personnes de petite taille. Et puis,
limite Game of Thrones, j'ai un truc de fantasme avec. Bon, bah, par exemple, mais les mecs qui collectionnent des poupées en plus, il y a un truc un peu creepy. Puis je lis très peu de fantastique et j'ai du mal avec le fantastique. Donc elle me dit, ouais, il y a un truc un peu fantastique. Je fais, alors là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Tu vois, une histoire de nain qui collectionne des poupées et c'est du fantastique. Genre, merci. Et en fait, non, faut pas s'arrêter à ce pitch-là. C'est merveilleux, donc c'est en effet une histoire de personne de petite taille qui collectionne des poupées. Mais l'auteur qui est écossaise, qui a une quarantaine d'années, a réussi à écrire un roman, une espèce de roman polyphonique, parce qu'à l'intérieur de cette histoire-là, il va y avoir plein de petites histoires. Il va tomber sur un manuscrit où, en fait, du coup, il y a plein de récits, et notamment des récits de femmes à travers les siècles. Et c'est extrêmement bien écrit. On rentre à chaque fois dans... En fait, chaque petite histoire va faire à chaque fois une dizaine de pages. On se dit, mais je voudrais un roman entier, en fait, sur ces histoires de, voilà, de personnages féminins. Et j'arrive pas bien à le pitcher. J'avais vu pitcher le mien tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est comme quoi les quatrièmes de coups et tout ça, il faut pouvoir aussi dépasser. Parce que je l'aurais pas, moi, acheté en librairie. J'aurais vu poupées cheloues et nains et fantastiques, j'en remercie. Et en fait, c'est un roman très contemporain et une plume merveilleuse et je pouvais vraiment plus le lâcher. Voilà.
Ok, très bien. Donc du coup, le créateur de poupées et l'autrice, c'est Nina Allan. Aïda ?
À moi ?
Oui.
Eh bien moi, le livre que je recommande de ma pile à lire ne sera pas surprenant puisqu'il a été lu dans le cadre de la préparation de cette émission. Pour préparer l'émission au mieux et être un petit peu en lien avec les thématiques qu'on allait aborder, j'ai lu un roman de romance qui vient de chez Hugo Roman par ailleurs, qui s'appelle « Nos âmes tourmentées » de Morgane Moncomble, dont on a un petit peu parlé pendant l'émission, qui est une autrice de romance très très connue et reconnue en France, une autrice française par ailleurs. Et je me suis intéressée à cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui parle de féminisme en parallèle de développer cette histoire de romance qui correspond à pas mal de codes dont on a parlé, hein. Évidemment, on a la rencontre, le danger, les péripéties. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cet ouvrage, que je n'ai pas eu le temps de terminer avant la préparation de cette émission. Je ne sais pas s'il y a un happy end ou pas. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le traitement au-delà du positionnement féministe de l'autrice, parce que le personnage principal est féministe et parle de féminisme. On a aussi un traitement des violences intrafamiliales, des violences sexuelles intrafamiliales que peuvent subir les femmes notamment, et la manière dont ce trauma-là peut affecter ensuite la manière dont on relationne avec des gens, pas seulement dans le cadre de relations amoureuses, aussi dans le cadre de relations amicales. C'est traité avec pas mal de finesse et je dirais même une forme d'exactitude au regard de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce que les statistiques nous racontent, notamment dans la manière dont on vit et dont on catharsise parfois son traumatisme. Et au-delà de ça, j'ai été très agréablement surprise par la manière dont le consentement est abordé, rendu sexy et fait partie aussi intégrante des scènes de sexe. C'était la première fois que j'en lisais avec du consentement qui était rendu glamour, rendu sexy, rendu cool. Notamment parce que je suis pas une très grande lectrice de romance, mais aussi parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné quand ça arrive, même encore en 2023. Voilà, si vous vous demandez à l'issue de cette émission ce qu'on peut faire en parlant de féminisme dans une romance, n'hésitez pas à aller voir ce roman, à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Voilà, ça s'appelle « Nos âmes tourmentées » de Morgane Moncomble. Et c'était une lecture extrêmement instructive et intéressante.
Ça donne envie en tout cas. Alors moi, dans ma pile à lire, c'est un livre que j'ai déjà lu, je vais être beaucoup moins fun que vous. C'est un essai, je ne sais pas si on le voit bien, qui a été publié récemment, la semaine dernière, par une autrice qui est aussi journaliste, qui s'appelle Lorraine Descartes. Et c'est un moyen aussi de teaser une future émission du Book Club, puisqu'on a très envie de recevoir Lorraine Descartes dans le Book Club. Nos absentes, c'est une enquête, mais aussi à la fois un récit intime de l'autrice sur les féminicides. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Nos absentes, à l'origine des féminicides, puisque Lorraine Descartes a été une des première journaliste en France à aller à la rencontre des familles des victimes de féminicide et surtout à en parler. Et
à une époque où on n'en parlait pas.
Absolument. À une époque où on n'en parlait pas du tout. Et à faire sortir ces histoires de la rubrique Faits divers qui présentait encore les féminicides comme des drames conjugaux, des homicides. On parlait de crimes passionnels. Et elle a été une des premières journalistes à en parler d'une autre manière. Et dans ce livre, c'est son enquête en fait journalistique qu'elle retrace. C'est entrecoupé de récits personnels aussi. Mais on va avec elle à la rencontre des familles proches des victimes de féminicides, mais aussi des auteurs. Et ce qui est assez... ce qui est assez rare aussi d'entendre la parole des auteurs, même si bon voilà c'est pas le cœur de l'ouvrage. En tout cas c'est très très intéressant, c'est bouleversant aussi. On reste vraiment happé par la lecture. Moi je crois que j'ai dû le terminer en deux jours, enfin deux soirées, tellement on est happé par cette lecture. Et voilà, et ça questionne. Ça questionne à travers ces histoires notre système, que ce soit la justice, mais aussi le système médiatique qui traite de ces questions de manière encore un peu éloignée, un peu plus que ce qu'il faudrait, en tout cas pour en parler vraiment et en parler bien. Donc c'est un essai de Lorraine Descartes, Nos absentes, que je vous recommande, qui est sur ma pile à lire. Et qui nous permet de boucler cette émission. merci beaucoup à toutes les trois.
Merci à vous.
Merci à vous qui nous avez regardés. On rappelle que cette émission sera disponible en replay sur YouTube, mais aussi en podcast. Donc n'hésitez pas à la revoir. Vous pouvez l'écouter et la regarder à nouveau. Et puis, on se dit à dans un mois.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.